France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, comment le stress et l'anxiété influencent notre santé cardiaque? On le sait, l'âge, la sédentarité, le tabagisme, une alimentation trop riche en sel et en graisse saturée font le terreau des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, l'infarctus du myocarde ou encore l'angine de poitrine. Mais depuis quelques années, des recherches scientifiques montrent l'effet du stress chronique sur la santé du muscle cardiaque et des vaisseaux. Vous verrez par quel mécanisme le stress altère notre santé cardiovasculaire et quels sont les moyens d'en protéger notre cœur. Une émission en partenariat avec le site Doctissimo. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser des messages et des notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Mais ça fait 50 ans que je fais attention. Je bois pas, je fume pas, je fais du sport, je mange hyper sain et je fais un infarctus. Je comprends rien. Ça sert à quoi de faire attention?
Disons que sans ça, cette attaque, vous auriez pu la faire beaucoup plus tôt.
Plus tard, parce que, en fait, ça peut m'arriver n'importe quand, ça.
Bah oui, c'est ça. Disons qu'on peut pas prévoir.
Donc, ça sert à rien.
Extrait du film Barbecue d'Éric Lavenne en 2014. Ici, le stress chronique avait provoqué la crise cardiaque du personnage interprété par Lambert Wilson. Ce n'est pas un facteur de risque spontanément évoqué en cas d'infarctus du myocarde. Bonjour, professeur Jean-Noël Fabiani Salmon.
Bonjour.
Salmon, parce que vous avez rajouté le nom de votre femme.
Absolument.
Vous êtes ancien chef de service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou, enseignant à l'université Paris-Cité. Vous publiez chez Albin Michel « Votre cœur, cet inconnu ». Pourquoi ce titre? On a pourtant l'impression de le connaître par cœur, notre muscle cardiaque, professeur Fabiani Salmon.
Bah écoutez, il a fallu quand même un millénaire pour comprendre comment ça fonctionnait. Il a fallu à peu près un siècle pour décrire les maladies. Et ça fait 50 ans qu'on commence à décrire à peu près des traitements fonctionnels.
Et vous écrivez au tout début de votre livre, « Rien n'est plus impressionnant qu'un cœur humain, le frisson indicible qui vous prend quand vous le voyez devant vous, déshabillé, mis à nu, palpitant à la façon d'un métronome, quand vous devinez sous cette pulsation rouge, cramoisie et ininterrompue, la matière même de la vie ».
Eh ben oui, c'est ça. Ben oui. Si le cœur arrête de battre, eh bien, au bout de quelques minutes, vous êtes mort. C'est le seul organe qui, s'il ne fonctionne pas pendant quelques minutes, eh bien, il entraîne votre mort, parce que c'est donc la vie. C'est donc la vie. D'ailleurs, ils ne s'y trompaient pas, les anciens, les antiques, parce que quelle était la différence entre un vivant et un mort? Eh bien, il y en a un qui était chaud. Et l'autre qui était froid. Et qu'est-ce qui pouvait faire de la chaleur? Eh bien, c'était ce boudoum boudoum qu'on entendait à la poitrine. Donc, le cœur, c'était quoi pour eux? C'était une chaudière.
Bonjour, professeur Christophe Scavé. Bienvenue.
Oui, bonjour Ali.
Vous êtes cardiologue spécialisé en rythmologie. La rythmologie, c'est l'étude du rythme cardiaque. Vous êtes chef de clinique aux cliniques universitaires Saint-Luc en Belgique et vous publiez chez Racine « Mon cœur, mon stress, ma santé ». Bonjour docteur Pierre Sedbon.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue spécialiste du stress. Vous êtes un cardiologue pionnier sur les conséquences du stress sur le plan cardiovasculaire et vous publiez chez Le Duc votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur et votre livre se complète très bien avec celui du professeur Scavé. Bonjour Gérald Kierzek.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, chroniqueur à France Bleu et à Télématin et directeur médical du site Doctissimo. Aux urgences, est-ce que les urgences cardiovasculaires sont les premières parmi toutes les pathologies que vous accueillez à l'Hôtel Dieu à Paris?
Alors, aux urgences, non. Au SAMU, oui. C'est-à-dire que les douleurs thoraciques, c'est un motif de recours et d'appel au 15 qui est bien compris par la population. Et heureusement, j'allais dire, quand on a une douleur à la poitrine, quand on a mal à la poitrine, quand on a des symptômes, et on sait que la crise cardiaque, on y reviendra, c'est une douleur thoracique, mais parfois c'est des signes un peu atypiques, notamment chez les femmes. Première cause de mortalité chez les femmes sont les maladies cardiovasculaires. Donc une douleur à l'estomac, un essoufflement, tout ça sont des motifs fréquents d'appel au SAMU. Et dans 9 cas sur 10, c'est pas cardiaque, mais dans 1 cas sur 10, c'est cardiaque. Mais pour pouvoir faire le diagnostic d'infarctus, eh bien, il faut avoir trié, j'allais dire, 9 pathologies qui relèvent d'autre chose que le cœur. Et la dixième, bah, c'est là où c'est la course contre la montre qui s'engage.
Et avec nous également notre chroniqueur, le professeur Boris Ancel. Alors, dites-nous, comment fonctionne cet inconnu célèbre qu'est le cœur ? Sa première mission, c'est évidemment de faire circuler le sang dans l'organisme, professeur Salmon Fabiani.
Ah oui, bien sûr, mais il a fallu beaucoup de temps pour découvrir cela. Vous savez, il a fallu, comme je vous le disais tout à l'heure, il a fallu un millénaire. Hein. Pendant très longtemps, on a pensé que il n'y avait pas de circulation à proprement parler. Le sang passait par les veines, allait vers la périphérie, et arrivé à la périphérie, ben, il s'évaporait. Donc c'est ce qu'on a cru, et comme c'est ce que croyait quelqu'un comme Galien, qui a été le grand représentant des médecins de l'Antiquité, qu'il a été pris comme relais, en quelque sorte, par l'Église catholique, au IIe siècle, eh bien, on a imposé les croyances de Galien comme parole d'Évangile, et pendant, allez, on prend un millénaire, et pendant un millénaire, tous les médecins au monde ont répété les bêtises de Galien jusqu'à ce que des gens comme Harvey arrivent et démontrent enfin la circulation sanguine. Mais on est au XVIIe siècle déjà.
C'est un travailleur acharné, le cœur, hein, il ne se repose jamais.
Jamais.
Il pompe quoi, tous les jours, 7 à 8 000 litres de sang ?
Absolument. Ouais. S'il fait à peu près plusieurs milliards de battements pendant votre vie. Milliards de battements pendant votre vie. Donc c'est un travailleur infatigable. Vous prenez un muscle et vous le contractez comme ça rapidement, vous allez avoir une épouvantable douleur. Vous allez être obligé de lâcher votre haltère. Ben, le cœur, lui, il continue à pomper avec un effort considérable en permanence.
À quoi ressemble notre cœur ? Quelle est sa structure, vous qui l'avez tant de fois opéré ? Ça ressemble à quoi un cœur ?
Ça ressemble à une grosse poire, si vous voulez, tournée vers la gauche, la pointe est tournée vers la gauche. Alors, il y a une manœuvre que font les chirurgiens cardiaques, ils prennent ce cœur qui bat, et ils le soulèvent pour voir ce qui se passe sur la face postérieure du cœur, et là, c'est la luxation du cœur, alors ils s'affolent quand on fait ça. Alors on regarde, et puis on relâche. Très impressionnant de tenir dans sa main un cœur battant pendant quelques...
Vous êtes peut-être l'un des rares autour de cette table à avoir eu cette possibilité.
C'est sûr.
Déjà...
Je
oui,
pense.
Boris Ancel. Bah,
j'ai la chance de travailler avec le professeur Patrick Nataf, chirurgien cardiaque, et d'aller régulièrement avec lui au bloc opératoire.
Oui, mais...
J'opère pas, je vous rassure. Mais je vois de très près, c'est extrêmement impressionnant de voir ce cœur qui bat de tout près. Hein.
Alors, quelles sont les autres fonctions vitales du cœur, professeur Christophe Scavé?
Alors, le cœur est aussi un centre d'intelligence à lui tout seul. Hein. Donc, j'ai l'habitude de dire que c'est aussi un deuxième cerveau parce qu'il est complètement connecté à notre cerveau par 40 000 neurones. Donc, le cœur est capable de dialoguer avec le cerveau. Donc, c'est sûr que c'est une machinerie qui est importante parce qu'elle fait circuler le sang, mais communique aussi par des signaux électriques, biochimiques aussi, et mécaniques. Donc, il produit des hormones, le cœur. Il est capable de réguler aussi la tension, d'informer le cerveau sur la tension artérielle, etc. Donc, oui, c'est un organe clé qui est dans la gestion de beaucoup de fonctions qui vont bien au-delà de la circulation sanguine, en fait.
Alors, docteur Pierre Sedbon, quels sont les liens entre le stress, de façon globale, on va y revenir largement dans cette émission, et le cœur? Qu'est-ce qui relie, par exemple, notre cerveau et le cœur? C'est quoi? C'est le nerf vague? Ça passe notamment par le nerf vague?
Parfaitement. Il y a un système nerveux qu'on appelle le système neurovégétatif. Il y a deux branches. Une appelée le sympathique qui agit par l'intermédiaire d'hormones bien connues, qu'on appelle les catécholamines, en fait l'adrénaline est la plus connue, et puis il y a le nerf vague ou parasympathique qui va faire le contraire, calmer le cœur, baisser la pression artérielle. Ces deux nerfs se font la guerre en permanence et ils sont sous le contrôle autonome du cerveau.
Et donc le nerf vague, je le rappelle, c'est le nerf le plus long du corps humain qui descend du cerveau jusque dans la cavité pelvienne. Et le nerf vague innerve notamment le cœur, les poumons et les viscères. Donc, docteur Sedbon, la recherche scientifique montre aujourd'hui clairement que le stress chronique impacte notre santé cardiaque. C'est un fait établi aujourd'hui parce que dans les facteurs de risque, je le disais en introduction, on parle de la sédentarité, du tabagisme, d'une alimentation trop salée, trop grasse, etc. Mais le stress n'arrive pas forcément en premier lieu quand on évoque un accident cardiaque.
Bien sûr, et c'est mon combat. Personnellement, ça fait 30 ans que j'en parle, mais heureusement, des études sont venues. On a étudié trop peu le stress. Et la dernière étude qui a amené vraiment quelque chose remonte à 2013, où enfin, on a constaté que se sentir stressé doublait le risque de faire une crise cardiaque. Cette phrase-là, il faut la retenir, parce qu'il va falloir se battre toute sa vie pour contrôler ce stress et le limiter au maximum.
C'est quoi le stress de façon très schématique, professeur Scavet ? Il existe le stress aigu, le stress chronique. Vous pouvez nous aider à faire la différence ?
Oui, tout à fait. Donc, le stress est d'abord une réaction qui est normale de notre organisme parce qu'on fait face à une urgence ou un danger. Et ce danger, ça peut être, c'est indépendant de notre volonté. C'est quelque chose qu'on ne va pas maîtriser. C'est une agression physique, verbale, si vous voulez. Ça peut être un événement climatique majeur comme un tremblement de terre, ça peut être un diagnostic de maladie, un licenciement, vous n'avez pas vu venir. Et ça, c'est la situation aiguë. Donc, au départ, c'est un mécanisme protecteur qui est totalement adaptatif et qui nous permet finalement de réagir par rapport à une situation qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas maîtrisée. Et comme mon collègue le disait, c'est cette réaction immédiate, elle est médiée par un système qu'on appelle le système sympathique, c'est-à-dire l'adrénaline. Et ce phénomène aigu, cette réaction immédiate que nous allons avoir, elle se déclenche en quelques dizaines de milliers de secondes, en fait. Donc ça va extrêmement vite, c'est presque réflexe. Et ça nous permet, soit si on est agressé, de faire face et de lutter, soit de prendre nos jambes à notre cou et de partir pour fuir ce danger. Donc c'est un instinct de survie qu'on a hérité d'ailleurs de nos ancêtres, les premiers hominidés. Et donc cet instinct de survie est inscrit dans nos gènes, est inscrit dans une partie de notre cerveau qui est très ancienne, qui est le cerveau reptilien. Alors, ce stress aigu peut causer déjà des pathologies cardiaques sévères, parce qu'on peut mourir de peur, c'est lié à ça, trop d'adrénaline peut engendrer une arythmie qui est mortelle. Vous pouvez faire un infarctus, l'infarctus de stress qu'on nomme le syndrome du cœur brisé ou Takotsubo est lié à ce type d'événement.
Et docteur Kirzek, vous avez déjà vu dans votre pratique des patients morts de peur, au sens littéral du terme ?
Alors, morts de peur, non, mais faire ce qu'on appelle le Takotsubo, c'est comme un infarctus, c'est un peu le Canada Dry de l'infarctus, ça ressemble à l'infarctus, ça a les mêmes symptômes que l'infarctus, mais ce n'est pas un infarctus et c'est réversible. Mais le seul moyen, quand vous avez une douleur thoracique lié peut-être à un stress très aigu, une douleur thoracique, c'est d'appeler le 15, et c'est uniquement en faisant l'électrocardiogramme qu'on va pouvoir, et parfois même la coronarographie, c'est-à-dire aller voir les artères coronaires avec les cardiologues, et c'est uniquement quand l'examen coronarographique sera fait et est normal, qu'on pourra dire a posteriori, ce n'était pas un infarctus, c'est un Takotsubo.
Vous nous expliquerez tout à l'heure, docteur Sedbon, professeur Scavet, ce qu'est le stress chronique. Boris Ancel, le programme de votre chronique, quoi de neuf, docteur, vers 10h40.
Je vous parlerai de la vitamine D. Alors je vous dis tout de suite, la vitamine D ne diminue pas le stress. En revanche, il y a vraiment une question qui se pose, est-ce qu'il faut prendre des suppléments de vitamine D pour rester en bonne santé ?
RBI. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Comment le stress influence notre santé cardiaque, c'est notre thème ce matin avec la complicité du site Doctissimo. Petit rappel pédago du fonctionnement du cœur avec l'ami Jamy Gourmaud.
S'il n'est pas beaucoup plus gros que le poing et ne pèse que 300 grammes, son rôle est primordial. Assurer la bonne circulation du sang dans tout l'organisme. Chaque minute, 5 litres de sang transitent par cette pompe. Comment fonctionne-t-elle ? Le sang, qui arrive des poumons où il a fait le plein d'oxygène, pénètre dans une première cavité, l'oreillette gauche. Cette dernière se contracte et éjecte le sang dans une seconde cavité, le ventricule gauche. En se contractant à son tour, le ventricule gauche envoie le sang dans l'organisme où il va alimenter les cellules en oxygène et les débarrasser du dioxyde de carbone qu'elles ont accumulé. Le sang, cette fois-ci, chargé en dioxyde de carbone, revient vers le cœur où il pénètre dans l'oreillette droite qui se contracte. Le sang passe alors dans le ventricule droit, qui se contracte à son tour pour envoyer le sang vers les poumons où il va se débarrasser du dioxyde de carbone et s'enrichir en oxygène. Alors pour mieux comprendre, on a d'abord expliqué ce qui se passait à gauche, puis à droite. Dans la réalité, les deux parties fonctionnent en même temps. Contraction des oreillettes, remplissage des ventricules, contraction des ventricules, éjection du sang, soit vers les poumons, soit vers le reste de l'organisme. Tout ça au rythme de 60 à 80 battements par minute. Quand on est au repos, plus du double lorsque les efforts physiques sont intenses.
Le fonctionnement du cœur expliqué par Jamy Gourmaud. Alors revenons au stress et à son impact sur la santé cardiaque. On a évoqué il y a quelques minutes le stress aigu. Vous vouliez apporter des précisions, professeur Fabiani Salmon.
Dans notre situation actuelle, je suis bien sûr d'accord avec le fait que la réaction au stress, la production d'adrénaline existe depuis nos ancêtres des cavernes qui, devant un fauve, avaient heureusement l'adrénaline pour augmenter leur pression artérielle, pour entraîner une tachycardie. Pourquoi ? Pour prendre leurs jambes à leur cou et échapper au fauve. Mais maintenant, aujourd'hui, le fauve, c'est votre patron qui vous dit quelque chose de très agréable, mais il est rare quand même que vous lui foutiez votre poing dans la gueule et que vous vous mettiez à courir. Or, le problème est là, il n'y a pas l'effort derrière qui va s'exprimer, qui va dépenser en quelque sorte ce qu'a produit l'adrénaline. Et qui prend, entre guillemets, je sais bien que c'est un petit peu imagé, mais qui prend tout, c'est votre cœur et vos artères qui prennent en quelque sorte la prise d'adrénaline sans être compensés par l'effort.
Docteur Pierre Sedbon. Je rappelle que vous êtes cardiologue.
C'est des choses qui arrivent, oui.
Sur ce que vient de nous dire le professeur Fabiani Salmon.
Écoutez, je suis tout à fait d'accord sur la vision de Jean-Noël là-dessus, elle est fabuleuse. En effet, l'être humain aujourd'hui n'a pas le bouton d'arrêt du stress, et les hormones du stress sont fabriquées, et elles sont excessives, et elles sont corrosives pour notre organisme.
Ça, c'est très important de dire que le stress chronique en particulier, c'est un phénomène biologique. Quand on dit qu'on est stressé, c'est pas un simple phénomène psychologique, c'est un phénomène qui s'ancre dans la biologie du corps. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le stress chronique et quelles sont les hormones en jeu dans ce stress chronique?
Le stress chronique, pour moi, c'est avant tout des effets, des signes physiques. On a la plupart du temps, ces signes physiques se passent dans la poitrine, dans le thorax. Alors les patients vont voir des médecins généralistes, des fois un cardiologue, pour des douleurs des coups d'aiguille, des pincements dans la poitrine. Pas du tout la douleur cardiaque qui serre très fort la poitrine, mais les gens ont peur, ils ont cette crainte. On peut avoir des palpitations, des tachycardies, des tas de symptômes, et c'est ces signes physiques, quand ils sont trop nombreux, signifient qu'il y a trop d'adrénaline dans le sang, et que ces hormones, eh ben, il va falloir les diminuer pour deux raisons. Se sentir mieux et ne pas avoir un problème cardiaque.
Christophe Scavé, comment une molécule comme le cortisol impliqué dans le stress chronique agit sur le cœur? Expliquez-nous le mécanisme. Pourquoi est-ce que c'est corrosif et destructeur pour le cœur et les vaisseaux, ce cortisol, en trop grande quantité?
C'est vrai que le cortisol est l'hormone par excellence qui accompagne le stress chronique. Elle agit directement sur le cœur, donc elle accélère le rythme cardiaque, elle donne de l'inflammation au niveau du cœur, et le cœur essaye de se guérir par ce qu'on appelle la fibrose, qui va donner des arythmies du cœur. Ça accélère, comme on l'a dit, le vieillissement des vaisseaux, donc ça donne plus de rigidité au niveau des artères et donc de l'hypertension. Ça favorise le dépôt de cholestérol et donc de l'athérosclérose. Ça modifie le métabolisme du sucre, en fait, et des graisses. Donc, vous avez plus de risques de diabète, votre cholestérol va monter, vous allez prendre du poids. Et en dehors de ça, c'est très important, vous allez avoir un effondrement de votre système immunitaire qui ne va plus fonctionner de manière optimale. Vous allez avoir des troubles de l'humeur, ça perturbe le sommeil, etc. Donc, on a tout un cortège de symptômes qui vont s'additionner et provoquer les maladies cardiovasculaires qu'on connaît. Donc oui, le stress chronique est un état de tension prolongé qui est souvent négligé, mais qui est extrêmement dévastateur.
Docteur Gérald Kirzek.
Dans les symptômes du stress chronique, on pense aux symptômes cardiaques, mais c'est souvent la conséquence. Mais avant cette conséquence-là, des petits signes, on vient de parler des troubles du sommeil, c'est extrêmement important. L'insomnie, les difficultés d'endormissement, des réveils, des troubles de santé mentale, grande cause nationale 2025, mais une dépression est un stress chronique. C'est à la fois la cause et à la fois la conséquence. Donc on voit bien qu'il y a des symptômes cardiaques, il y a des symptômes extracardiaque, tout ça médié par effectivement de la chimie qui va agir sur le cœur. Mais il y a beaucoup de symptômes qui sont souvent extracardiaques et avant de le raccrocher à du stress, c'est parfois compliqué. Pareil sur les pathologies dermatologiques, non pas qu'elles soient complètement liées au stress, mais on sait qu'elles peuvent être déclenchées ou aggravées par le stress.
Boris Ancel.
Oui, comme vous venez de le mentionner, il y a des hormones qui sont perturbées hein, dans ces situations de stress. Alors je vois tout de suite les auditrices, auditeurs qui se disent « mais est-ce qu'on ne peut pas me doser des hormones de stress pour savoir que je suis stressé ?» En fait, on ne peut pas, au laboratoire d'analyse simple, un dosage de cortisol ou d'adrénaline ne va pas répondre à la question. Il faudrait faire des analyses extrêmement poussées dans des études scientifiques, dans des études au laboratoire, pour montrer qu'il y a des perturbations de ces hormones de stress. Donc, ne demandez pas à votre médecin un dosage du stress, ça n'existe pas.
Jean-Noël Fabiani-Salmon, pendant longtemps, le stress a été un facteur sous-estimé dans notre santé cardiovasculaire.
Bien entendu, parce que la grande étude qui a été faite au départ pour connaître les facteurs de risque, qui s'appelle la Framingham Study, c'est une ville des États-Unis, la petite ville de Framingham, qui a été prise dans son ensemble, et on a suivi la plupart des gens pendant 70 ans. Et c'est là où on a compris que le cholestérol, que l'hypertension, que le tabac et tout ça s'ajoutaient, non seulement s'ajoutaient, mais se multipliaient au cours du temps. Mais on n'a pas pensé au stress. Pourquoi ? Eh bien parce que le stress avait été étudié par des gens qui s'occupaient des hormones. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient, en l'occurrence, de mettre des hormones à des souris. Et ils ont rapidement compris qu'il se passait quelque chose de différent, que c'était le problème des souris n'était pas lié aux hormones, et il était lié à autre chose. Et alors là, c'est là qu'on a introduit le mot stress. Le mot stress, il vient du vieux français, du mot déstress en français. Détresse, bien entendu. Les Anglais nous ont piqué le mot, bien entendu, comme d'habitude. Ils ont appelé ça le stress, mais c'est la détresse. Eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Votre point de vue, docteur Pierre Sedbon, sur cette sous-estimation du stress dans les pathologies cardiaques ?
Elle est phénoménale. Vraiment, je répète en boucle que ça augmente par deux le fait de se sentir stressé, le risque cardiaque. On voit de plus en plus aujourd'hui, et c'est un peu nouveau, depuis 5 à 10 ans, je commence à voir des jeunes hommes, des jeunes femmes de la quarantaine qui ne fument pas, qui sont plutôt sportifs et qui vont faire un infarctus ou un problème vasculaire cérébral lié essentiellement au stress.
Professeur Christophe Scavet, vous l'écrivez très bien dans votre livre, je vous cite, le muscle cardiaque est une éponge qui absorbe les assauts émotionnels du quotidien.
C'est ce que je disais, hein, donc le cerveau est un centre émotionnel également, comme le cerveau peut l'être, hein, donc tout ce qui se passe dans le cerveau sera jamais ignoré par le cœur et inversement. Donc, si vous avez une anxiété, un stress, vous allez avoir des palpitations, etc. Si vous avez une douleur thoracique qui survient parce qu'il y a une artère de votre cœur qui se rétrécit ou si vous faites un infarctus, ça va tout de suite alerter votre cerveau. Donc, c'est vrai que c'est une communication qui va dans les deux sens. Et comme ont dit les confrères, je pense très important que le stress est maintenant considéré comme le troisième facteur de risque après le tabac et le cholestérol. Donc bien avant d'autres facteurs de risque qu'on avait mis en évidence précédemment, mais c'est un point important.
Mais donc, docteur Sedbon, minimiser le rôle du stress dans la santé cardiaque nous met en danger, clairement.
Oui, je crois que maintenant, les médecins doivent se faire à cette question qu'ils doivent poser à leurs patients. Vous sentez-vous stressé, oui ou non ? C'est une question à poser à nos patients.
Pourquoi le stress chronique abîme-t-il les vaisseaux sanguins ? Qu'est-ce qui se passe, Christophe Scavet ?
Alors, il faut savoir qu'un vaisseau sanguin qui est en bonne santé, il s'adapte aux circonstances, il peut se dilater quand vous faites un effort physique, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il faut amener plus d'oxygène, plus de sang vers les muscles qui fonctionnent. Et lorsque vous êtes stressé, cette dilatation naturelle qui est liée à la production d'une hormone, qui est en fait du monoxyde d'azote naturel, se fait par la paroi du vaisseau quand elle est intègre, quand elle est saine. Si vous avez trop de cortisol, de la même manière si vous êtes fumeur par exemple, vous contrecarrez cet effet de dilatation des vaisseaux. Et donc ça c'est un des énormes mécanismes qui est responsable de la rigidité des artères, de l'hypertension qui va s'en suivre et du développement de l'athérosclérose.
Alors la grande particularité de nombreuses pathologies cardiovasculaires, c'est qu'elles sont souvent asymptomatiques, elles progressent de façon sournoise. Par exemple, une artère qui rétrécit de moitié ne donnera pas forcément de symptômes cliniques. Donc on ne sent pas quand le stress chronique altère petit à petit notre santé cardiovasculaire, docteur Pierre Sedbon.
Oui, d'où l'intérêt de se dire que c'est un message aussi que je veux lancer. Une femme à partir de 40 ans, et je parle tout de suite des femmes, doit penser à avoir une consultation cardiologique, surtout si elle fume, surtout si elle est stressée. On perd 200 femmes par jour du cœur, c'est 8 fois plus que le cancer du sein, et on commence à peine à parler de prévention cardiovasculaire chez la femme.
J'aimerais qu'on prenne le cas de l'hypertension artérielle. C'est un tueur silencieux, en règle générale, pas de symptômes particuliers, je parle sous votre contrôle, professeur Fabiani Salmon, en règle générale, avec l'hypertension.
Absolument, c'est l'ennemi latent, l'hypertension artérielle. Parce que non seulement on ne le sent pas, mais on se sent bien. Parce qu'on vit à 100 à l'heure. Et quand vous voulez donner un traitement à vos malades, vous allez leur donner des traitements qui vont les rendre un petit peu moins pugnaces, en quelque sorte, et ils vont l'impression de se traîner. Et le problème va être de permettre aux malades de s'adapter au traitement que vous lui donnez, dans lequel il y a de l'aspirine pour nourrisson, par exemple. Vous voyez, il vous prend pas toujours au sérieux quand vous lui donnez ça, avec des médicaments qui le fatiguent plutôt qu'autre chose. Et pourtant, c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui doit se traiter tous les jours.
Docteur Kirzek ?
Il y a des petits signes qui peuvent quand même alerter sur les crises hypertensives, oui, ça peut être les saignements de nez ou des maux de tête, mais sur les maladies cardiovasculaires en général, vous parlez d'une artère qui est bouchée à moitié, par exemple. Au repos, vous n'aurez pas de symptômes. En revanche, dès que vous allez faire un effort, vous allez monter les escaliers, vous faites un effort, là, vous pouvez avoir des symptômes. Alors, ça peut être la classique douleur dans la poitrine, la barre dans la poitrine, mais parfois, c'est beaucoup plus insidieux. C'est comme une douleur d'estomac ou c'est un essoufflement. Et c'est ces petits signes liés à l'effort, c'est-à-dire quand le cœur pompe et demande plus d'oxygène, il pompe plus vite, il demande plus d'oxygène, et c'est là où l'artère bouchée à moitié va ne plus remplir son office, c'est-à-dire il y a la moitié du sang qui arrive et c'est pas suffisant à l'effort.
Quelle est la tension artérielle normale et à partir de quand, de quel niveau parle-t-on d'hypertension artérielle ?
Alors, la définition de l'hypertension artérielle, c'est plus de 14 sur 9. Et on le rappelle, c'est pas quand on vous dit vous avez 14,9 de tension, c'est pas 14,9, c'est 14 la pression systolique, la pression d'éjection du cœur, quand le cœur se contracte et on voit le sang dans les artères, ça c'est la tension maximale, et le 9 c'est la tension minimale, c'est-à-dire quand le cœur se relâche et le sang est à une tension minimale dans les artères. Et donc du coup, 14 sur 9 c'est la définition de l'hypertension. Au-dessus soit du 14, soit du 9, c'est de l'hypertension artérielle.
Docteur Sedbon ?
Oui, un petit message important sur l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, elle est de cause inconnue. Elle touche plus de 10 millions de gens en France. Ils ne font pas confondre stress et hypertension artérielle. Le stress favorise l'hypertension artérielle, mais ça n'est pas la cause.
Mais Christophe Scavé, on sait que la consommation excessive de sel, l'âge, des composantes génétiques expliquent en partie l'hypertension artérielle. Mais de quelle manière le stress chronique, peut avoir des effets délétères sur notre tension artérielle?
Donc, l'hypertension artérielle, dans 95% des cas, on la décrit comme étant essentielle. Essentielle, c'est-à-dire que c'est à la fois la génétique, c'est votre sédentarité, c'est trop de sel, trop de graisse, le surpoids, l'alcool, etc. Et le cortisol qui est lié au stress chronique. Donc le cortisol, avec cette rigidité artérielle, va augmenter les chiffres tensionnels, puisqu'on sait que le vaisseau doit pouvoir se relaxer à chaque battement cardiaque, et c'est cette relaxation qui baisse nos chiffres tensionnels. Or, ce phénomène est contrecarré par le cortisol, en fait.
Comment expliquer, professeur Scavé, quand on fait par exemple un exercice de cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, on prend sa tension artérielle avant de pratiquer cette cohérence cardiaque à un certain chiffre, et il peut arriver que ce chiffre baisse après avoir fait cet exercice. Est-ce que c'est d'ailleurs recommandé pour faire baisser un peu sa tension, la cohérence cardiaque ?
Donc la cohérence cardiaque, quand on parle de ça, c'est vrai que si on en parle aux cardiologues, ils ne connaissent pas bien, ils connaissent plus la variabilité sinusale, qui est en fait le reflet de la stimulation du nerf vague, du système parasympathique. Quand on fait de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'au lieu de respirer 12-15 fois par minute, ce que les gens font habituellement, on demande de ralentir sa respiration à 6 fois par minute, avec une inspiration pendant 5 secondes et une expiration qu'on essaye de prolonger un petit peu. Vous faites ça, vous diminuez en fait votre fréquence cardiaque. Et comme la tension artérielle est liée à la fréquence cardiaque, cette tension artérielle va diminuer. Il faut faire ça 3 fois par jour, 5 minutes, et vous activez votre système parasympathique. Et si vous le faites avec un peu de relaxation, un peu de méditation, ben vous avez un effet qui est surajouté et qui diminue l'état de stress.
Pierre Sedbon.
Oui, les outils anti-stress sont fort heureusement nombreux. La cohérence cardiaque en fait partie, je la conseille à tous mes patients, et moi-même, étant parfois un peu speedé, je me fais ma petite séance. C'est excellent, mais il ne faut pas oublier que le meilleur anti-stress reste le sport, l'activité physique, la relaxation dont la cohérence cardiaque est apparentée, et puis ne pas fumer, diminuer le café, le thé, tous ces excitants qui augmentent les hormones du stress.
Alors, le stress peut-il jouer un rôle en cas d'infarctus du myocarde, docteur Sedbon? Rappelez-nous peut-être en quelques mots ce qu'est un infarctus du myocarde, docteur Kirzek.
L'infarctus du myocarde, c'est une souffrance du muscle cardiaque, le myocarde, qui est le muscle du cœur. Il est irrigué par des artères. Ces artères sont les artères coronaires. Quand elles se bouchent, c'est une artère qui se bouche, c'est la zone qui n'est plus irriguée, et donc le tissu va se nécroser, va mourir, et d'où cette course contre la montre pour aller déboucher l'artère.
C'est très important. Rappelez-nous les signes d'alerte.
Les signes d'alerte, c'est essentiellement la douleur dans la poitrine. Alors, quand c'est une douleur dans la poitrine, en barre, avec une irradiation dans le bras gauche, par exemple, et un peu vers la mâchoire, j'allais dire, le diagnostic est évident. C'est quasiment marqué infarctus du myocarde sur le front du patient. Mais dans plusieurs situations, c'est pas du tout aussi évident.
Vertige,
que ça.
Vertige, nausée, essoufflement.
Alors, ça peut être très atypique. Ouais. Essoufflement, une douleur un peu comme un embarras gastrique. On a l'impression qu'on n'a pas bien digéré. Ça peut être, si c'est notamment sur la zone inférieure du cœur, ça peut être un malaise vagal, ça peut simuler un malaise vagal, sauf qu'un malaise vagal, généralement vous vous allongez, vous attendez 10-15 minutes et ça va passer. Là, c'est un malaise qui ne passe pas. Et donc, si vous avez des symptômes atypiques qui persistent, il vaut mieux appeler le SAMU. Et moi, je dis très souvent, on n'appelle jamais pour rien le SAMU, mais au moins il y a un diagnostic qui est fait par téléphone, on vous envoie une équipe, au pire ou au mieux c'est pour rien, mais si c'est un infarctus, c'est le seul moyen d'en faire le diagnostic, c'est l'électrocardiogramme.
Docteur Sedbon, donc, est-ce que le stress peut jouer un rôle en cas d'infarctus du myocarde?
Oui, le stress...
Et pourquoi?
Le stress est un facteur de risque de maladie cardiaque. On sait ce qu'on dit depuis quelques minutes. Probablement un des plus importants. Il va augmenter les hormones circulantes du stress, adrénaline, cortisone, noradrénaline, et peut favoriser une rupture de plaque, ne serait-ce que par l'augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque.
Et nous écouterons tout à l'heure un auditeur, Christophe, qui vient de subir un infarctus du myocarde. Mais en attendant, à 10h41, il est l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf, docteur, du professeur Boris Ancel.
Ah ouais, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Alors, Boris Ancel, faut-il prendre des suppléments de vitamine D pour rester en bonne santé?
Alors, la vitamine D, c'est vrai qu'on lui prête un peu tous les pouvoirs. On sait qu'elle renforce l'os, on pense qu'elle est importante pour l'immunité, elle protégerait du cancer et des maladies cardiovasculaires, et elle améliorerait même l'humeur. Et pourtant, il n'y a pas aujourd'hui de recommandation officielle pour que tout le monde se supplémente en cette vitamine D.
Alors Boris Ancel, on entend souvent dire qu'on est presque tous carencés. C'est un vrai problème ou une fausse alerte?
Le déficit, c'est vrai, il est fréquent. C'est vrai que si on se base sur les dosages de vitamine D dans le sang, eh bien, on est, pour bon nombre d'entre nous, déficitaire. Selon l'étude ENNS, en France, 43% des Français présentent un déficit de vitamine D. Mais est-ce qu'il faut supplémenter pour autant? Pas forcément. L'ANSES, une de nos autorités de santé, rappelle que la vitamine D est essentielle pour la santé osseuse et musculaire, mais qu'une supplémentation systématique n'est pas justifiée. Cette supplémentation, elle est recommandée fortement, uniquement, chez certains groupes de personnes, notamment de la naissance à l'adolescence, chez les personnes âgées, chez les femmes enceintes, chez les personnes qui s'exposent peu au soleil, et chez certains patients qui sont atteints de maladies chroniques. Pour les autres, aucune preuve solide ne justifie une supplémentation systématique.
Mais pourtant, on lit partout que la vitamine D protégerait contre plein de maladies. Est-ce que c'est vrai, c'est exagéré?
C'est vrai qu'on lit partout, mais les grandes études ont tranché. Chez les personnes âgées, selon une synthèse de la Cochrane, la supplémentation en vitamine D et calcium réduit le risque de fracture de la hanche de 16% et de fracture non vertébrale de 5%. Mais pour la prévention des maladies cardiovasculaires et du cancer, honnêtement, aujourd'hui, on est déçu. Il y a notamment l'essai Vital, qui porte bien son nom, mais qui est décevant. Il a suivi plus de 25 000 personnes et il a montré que la vitamine D versus placebo, ça ne réduit pas le risque d'infarctus du myocarde ni de cancer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à étudier cela. Il faut continuer à étudier ce sujet. Mais dire haut et fort que la vitamine D protège du cancer et de l'attaque cardiaque, ça, c'est une fausse information. Pour l'immunité, certaines études suggèrent qu'elle pourrait réduire le risque d'infection respiratoire. Mais là encore, les preuves sont faibles. Et je dirais, même si ça va faire bondir beaucoup de personnes, que la vitamine D ne remplace certainement pas les vaccins.
On trouve de la vitamine D sous forme de médicaments et en complément alimentaire, c'est la même chose ?
Non, et ça c'est une distinction essentielle. L'ANSES différencie bien les médicaments à base de vitamine D qui sont prescrits par un médecin avec un dosage précis et une efficacité probable voire démontrée, des compléments alimentaires qui sont disponibles en vente libre et dont la teneur en vitamine D peut varier fortement.
Et en pratique, comment ne pas manquer de vitamine D ?
Alors la première recommandation, c'est l'exposition solaire modéré bien sûr, 15 à 20 minutes d'exposition par jour, directe de 20% du corps, par exemple les bras, les avant-bras, entre avril et octobre, ça permet de créer des stocks de vitamine D que votre corps pourra utiliser plus tard. Ensuite, il y a l'alimentation équilibrée qui amène, malgré tout, de la vitamine D par la bouche. Toute l'année, ça complétera les apports. Si malgré cela, vous êtes à risque de manquer de vitamine D, oui, votre médecin vous prescrira un médicament adapté et bien dosé. Avec ces quelques conseils, vous êtes certain d'optimiser vos stocks de vitamine D pour votre santé sans prendre de risques. Et si vous voulez avoir quelques références scientifiques, comme d'habitude, elles se trouvent sur le site de France Inter.
La chronique Quoi de neuf docteur à podcaster et à partager sur l'appli Radio France. Et on vous retrouve également dans des vidéos France Inter visibles sur les réseaux sociaux, Boris Ancel.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Alors, comment le stress influence notre santé cardiaque ? C'est notre thème ce matin avec la complicité du site Doctissimo. Et nous accueillons Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors, vous nous appelez car vous avez fait trois infarctus du myocarde, c'est ça ?
Oui, trois infarctus, un en 2010 et deux en 2018.
Et quelle était la part du stress dans la survenue de ces infarctus du myocarde ?
Alors, bah écoutez, j'ai un métier qui est stressant parfois, je suis agriculteur, et j'ai des antécédents familiaux, j'ai une grand-mère qui avait fait un infarctus à 46 ans, et j'ai fait mon premier infarctus à 46 ans. Mmh. Et j'en ai fait deux autres après des épisodes familiaux, un divorce, et diagnostiqué avec une augmentation du taux d'hormones que le cœur produit quand on a un infarctus, et on m'a fait 10 coronaux plusieurs fois, et on m'a dit j'avais pas d'artère de boucher, mais que c'était le stress et que je resserrais mes artères mécaniquement dû au stress. Et c'est un professeur du CHU de Caen, pour pas nommer, qui m'a dit ça, et ça m'a surpris, mais voilà, c'est le stress qui m'a provoqué principalement ces infarctus du myocarde. Donc j'ai un traitement de fond maintenant, mais à l'époque, voilà, j'avais pas d'artère, j'ai pas eu d'intervention chirurgicale, j'ai pas eu de mise en place de stent, mais c'est de, ça m'a surpris, donc c'est vrai que ça m'a interpellé dans votre émission d'entendre ça, parce que c'est vraiment ce qu'on m'a dit quand j'ai fait mes infarctus à répétition, et le stress, le travail, et bon.
Christophe Scavé, sur le témoignage de Christophe, vous êtes cardiologue et l'auteur de Mon cœur, mon stress, ma santé. On est en plein dans le mille là.
Exactement. Donc, ça rejoint aussi les statistiques inquiétantes. Hein, quand les patients qui ont fait des infarctus, il y a un sur cinq qui est très anxieux. Il y a même 6 à 10 % de dépression. Et on rapporte parfois de même des syndromes post-traumatiques après l'infarctus. Et ça va aggraver évidemment le risque de complications et de récidive. Quant à le lien familial ou héréditaire, il faut toujours regarder au niveau du cholestérol si il n'y a pas justement des mutations génétiques qui font que vous avez un niveau de cholestérol très élevé et qui va prédisposer aussi à développer des maladies cardiovasculaires précoces.
Christophe, est-ce que vous travaillez sur la gestion du stress depuis vos infarctus du myocarde ?
Ah ben, c'est-à-dire que j'ai mon métier a évolué. Je suis agriculteur, j'avais beaucoup d'élevage et beaucoup de travail autour de ça. Donc j'ai arrêté l'élevage. Après, ma compagne m'a dit, écoute, faut arrêter, faut changer un peu de vie, de mode de fonctionnement. Et c'est vrai que j'ai arrêté l'élevage et je suis encore agriculteur aujourd'hui parce que je suis proche de la retraite, mais j'ai moins de stress au niveau du boulot et ça a quand même beaucoup amélioré les choses, quoi, parce que c'est un métier qui fait partie des métiers aussi en stress. Et on sait que voilà, y a beaucoup d'agriculteurs qui craquent, et ça c'est pas moi qui le dis, mais donc j'ai changé mon mode de fonctionnement au niveau du travail, et c'est vrai que le stress a diminué, et c'est la situation familiale a évolué positivement, donc voilà, il y a un tas de facteurs qui ont fait que c'est mieux.
Christophe Scavé.
Oui, je voulais juste dire, il rejoint exactement dans ses commentaires les statistiques que l'on connaît maintenant sur les indépendants, dont un quart des indépendants maintenant, selon les statistiques chez nous en tout cas, sont en quasi burn-out. Il y en a maintenant en Belgique 500 000 personnes qui sont des malades de longue durée, dont un quart, c'est des burn-out liés à du stress professionnel essentiellement. Donc on est en plein dans les statistiques, en fait.
Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir appelé. Romain nous écrit, pompier professionnel, je pense que ma profession cumule deux types de stress, chronique et aigu, réveil brutal la nuit par le bip, intervention stressante. À partir de 40 ans, nous passons tous les ans un électrocardiogramme. Est-ce suffisant en matière de prévention, docteur Pierre Sedbon ?
Non, aujourd'hui nous avons bien mieux. Hein. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des épreuves d'effort depuis longtemps, qui peuvent dépister des choses mais ne pas le dépister. Pour moi actuellement, l'examen roi en termes de dépistage de maladies coronaires est le scanner coronaire qui lui permet de voir les artères du cœur. Bon, il faut le faire au bon endroit bien évidemment, mais c'est extraordinaire.
Est-ce que le stress impacte toutes les pathologies cardiovasculaires ? Je pense à l'accident vasculaire cérébral, l'angine de poitrine. Est-ce que toutes les pathologies sont à égalité face au stress ou pas ?
Parfaitement. On voit très bien des fois des gens stressés qui vont faire un trouble du rythme, voire déclencher ce qu'on appelle une arythmie par fibrillation auriculaire, qui est un trouble du rythme fréquent et dangereux parce que favorisant des accidents cérébraux. L'AVC lui-même est favorisé par le stress. Le stress augmente le risque de toutes les pathologies cardiaques.
Tiens, intéressons-nous au Takotsubo, le syndrome du cœur brisé, en compagnie de Monique. Bonjour Monique. Vous nous avez appelé parce que vous avez fait un Takotsubo, c'est un syndrome, le nom est japonais, il évoque une atteinte cardiaque due au stress. Racontez-nous ce qui vous est arrivé.
Eh bien, écoutez, c'était il y a 5 ans, février 2020, juste avant le confinement, mais ça n'a aucun lien avec ce fait-là. Il s'est trouvé que dans un contexte, on va dire, très stressant émotionnellement, je me suis retrouvée avec des douleurs donc au niveau de la poitrine. Et j'avoue que je ne savais pas à ce moment-là trop qu'est-ce qui se passait. J'ai attendu un certain temps, je suis rentrée chez moi, et puis comme ça ne passait pas, eh bien, j'ai appelé le 15, et voilà, direction l'hôpital. Dans un premier temps, sur l'électro, je crois qu'il n'y avait pas d'anomalie. Donc j'ai eu un dosage de troponine qui a montré effectivement que le taux était très élevé. J'ai donc passé une coronarographie en suivant qui montrait pas de qui montrait pas d'obstruction au niveau des coronaires. Et l'écho que j'ai eu aussi en suivant me montrait plutôt était en faveur d'un Takotsubo. Donc je découvrais ce jour-là cette pathologie, quoi.
Pourquoi les femmes sont plus exposées que les hommes à ce syndrome du cœur brisé, ce Takotsubo, professeur Scavé?
Oui, c'est vrai que le profil des personnes qui sont atteintes, c'est plutôt la femme ménopausée ou après la ménopause, qui est plutôt stressée dans sa vie tous les jours. Probablement, bon, il y a certainement la génétique qui intervient. On pense aussi peut-être à certains récepteurs cardiaques qui sont plus sensibles chez la femme à la stimulation adrénergique et qui peut l'expliquer. Le problème du Takotsubo, de fait, c'est que comme c'est lié à l'anxiété, que l'anxiété est plus souvent présente chez les femmes, le risque de récidive reste assez important, en fait.
Professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon.
Oui, chez les femmes en particulier, il y a plus de récepteurs quand même aux catécholamines que chez les hommes. Ne serait-ce que pour une raison, c'est qu'elles peuvent être enceintes et donc avoir à subir en quelque sorte le stress de ce qu'est la grossesse. Donc elles ont naturellement beaucoup plus de récepteurs. Donc elles sont plus sensibles naturellement à un choc adrénergique. Alors moi je l'ai vécu plusieurs fois. Dans le cadre de la chirurgie cardiaque, où certaines patientes extrêmement sensibles, extrêmement anxieuses, eh bien, m'ont fait réellement un Takotsubo post-opératoire. Ouais. En me disant, en plus, c'est vachement sympa, docteur, vous m'avez brisé le cœur. Donc, elle ne s'était pas trompée, et on a été obligé même de les mettre sous assistance circulatoire quelques jours pour que ça passe.
Merci beaucoup, Monique, de nous avoir appelé. Alors, quelles sont vos solutions simples pour limiter l'impact du stress sur notre santé cardiaque en prévention, docteur Sedbon, qu'est-ce que vous recommandez? L'exercice physique, vous l'avez dit tout à l'heure. Des oui. exercices de respiration, mais aussi.
Alors, écoutez, je n'apporte rien en disant que tout le développement personnel peut servir, bien évidemment. Mais moi, c'est vrai que j'arrive souvent quand ça suffit pas. Et à ce moment-là, j'ai une prédilection, comme les acteurs, les musiciens, les chanteurs, vers les bêta-bloquants qui sont sous-employés dans le cadre du stress, qui sont des médicaments du cœur bien connus, qui ne fatiguent pas, qui n'endorment pas, qui diminuent simplement les hormones du stress et qui, probablement, ça n'est pas démontré, protègent le cœur encore sain.
Quelles sont les contre-indications, les effets secondaires éventuels des bêta-bloqueurs, des bêta-bloquants ?
Il n'y a pas de médicament qui n'ait pas d'effet indésirable. Ceci dit, il y en a très peu. Éventuellement, une fatigue en début de traitement, d'où l'intérêt de pas aller trop vite dans l'instauration du traitement.
Professeur Christophe Scavé, un dernier conseil peut-être pour réguler, gérer notre stress ? Il nous reste une poignée de secondes.
Donc, avec le sport, c'est l'alimentation. Hein. Soyez prudent par rapport à tout ce que vous mangez, donc des bonnes graisses, diminuer les graisses saturées, les graisses trans.
L'alimentation méditerranéenne qu'on voilà, souvent prenez.
Cohérence cardiaque, auto-hypnose, méditation, ça aussi c'est extrêmement important, relaxer son cerveau.
Merci beaucoup docteur Gérald Kirzek, on pourra retrouver un dossier consacré au stress et à la santé cardiaque sur le site doctissimo.fr. Merci, je voulais voir si vous suiviez. Merci professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon. Vous reviendrez hein, pour parler de votre livre « Votre cœur, cet inconnu ». C'est publié chez Albin Michel. Je recommande vraiment ces deux livres. « Mon cœur, mon stress, ma santé » de Christophe Scavé chez Racine et « Votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur » du docteur Pierre Sedbon. Deux livres, c'est chez Le Duc. Deux livres qui se complètent parfaitement.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.